La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est l'une des rares femmes à s'être illustrée en paléontologie dans les années 70 en Afrique de l'Est. Cette région du monde a été le lieu de la découverte de la célèbre Australopithèque Lucie. Elle, c'est Raymonde Bonnefille. Elle est biologiste, mais sa spécialité, c'est la palynologie, c'est-à-dire l'étude des pollens. Cette discipline est essentielle pour apporter des informations sur l'environnement d'un site, pour comprendre ses paysages ou son climat à une époque donnée. L'apport donc de la palynologie a été très important dans la découverte de Lucie auprès d'Yves Coppens et de ses équipes. Raymonde Bonnefille publie chez Odile Jacob un véritable récit d'aventure sur ses expéditions archéologiques. Elle est mon invitée dans un instant pour nous faire revivre cette époque particulière associée donc aux plus grandes découvertes sur nos ancêtres lointains. Et vous pouvez déjà nous rejoindre avec toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la découverte d'un fossile polonais qui vient bousculer les gros dinosaures du Trias.
Oui Mathieu, un méga herbivore cousin des mammifères qui broutait certainement dans la cour des grands. On vous présente Lisovicia boyani dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous Science Grand Format de France 5 avec un documentaire consacré ce soir à Néandertal. Fanny Boyon réalise cette émission préparée par Irène Menahem.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Raymonde Bonnefille.
Bonjour Mathieu.
Ravi de vous accueillir. Dans un instant, vous allez nous emmener pour une expédition, pour plusieurs même expéditions scientifiques en Afrique de l'Est, là où était par exemple retrouvé, je le disais, le squelette de Lucie, l'Australopithèque de 3,2 millions d'années. Ce qu'on va finalement beaucoup comprendre aussi avec vous, c'est qu'avant une découverte majeure, il y a des années de travail avant.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire que l'expédition qui a découvert Lucie a été précédée par plusieurs explorations en Afrique de l'Est et en particulier en Éthiopie. Alors c'est un petit peu ce que je décris dans le livre et je l'enracine aussi dans l'historique. C'est-à-dire pourquoi sommes-nous allés dans cette région d'Éthiopie ? Il y avait des antécédents et qui remontent jusqu'à à la première époque, au début du XXe siècle, un explorateur Obero qui découvre la région avec un assistant du muséum qui deviendra un grand professeur de médecine tropicale et puis ensuite un professeur académicien du muséum et les grandes expéditions commencent dans les années 1966. J'ai eu la chance de participer à plusieurs d'entre elles.
Grâce à vos pollens. Hein,
comme grâce aux pollens.
On va expliquer ça dans un instant parce que c'est votre discipline. Elle est fondamentale pour comprendre justement l'environnement des découvertes. Et vous êtes notre invité pour en parler à l'occasion de la publication de ce livre. On se retrouve donc dans quelques minutes. Raymonde Bonnefille, vous êtes l'invité de La Tête au Carré. À tout de suite. Axel Villard, le fossile dont nous allons parler à la une n'est pas celui d'un dinosaure, mais il avait quand même de quoi rivaliser en taille.
Et oui Mathieu, puisque le mastodonte nommé Lisovicia boyani pesait quand même une dizaine de tonnes et vivait au milieu des dinos du Trias il y a 230 millions d'années. Ses os ont été découverts en Pologne, au nord-ouest de Cracovie, et font l'objet d'une publication dans la revue Science. L'animal appartient au groupe des dicynodontes, une branche cousine de celle des mammifères, et sa découverte a surpris un peu tous les paléontologues, y compris vous, Chloé Olivier, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour.
Vous êtes doctorante à Sorbonne Université au Centre de Recherche en Paléobiologie et Paléo-Environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous faites en ce moment votre thèse sur ce groupe des dicynodontes. Alors en quoi la découverte de ce spécimen, ce gros spécimen, est une petite surprise ?
Il est super intéressant parce que déjà c'est le plus gros qu'on ait trouvé dans le groupe.
Oui.
Puisqu'habituellement les plus gros dicynodontes qu'on avait faisaient la moitié de sa taille et probablement de son poids. Et donc alors qu'on pensait que les dicynodontes s'étaient éteints brutalement à la fin du Trias, il semblerait que cette grosse forme en fait ait pu rivaliser, pourquoi pas, avec les dinosaures herbivores qui ont commencé à apparaître et qui avaient de très très grosses tailles. Et Et du fait, et il est aussi super intéressant parce que c'est le plus jeune qu'on ait trouvé en fait.
Alors si on devait dresser un peu le portrait robot de ces dicynodontes, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ou alors de celui-ci en particulier à partir de la vingtaine d'os qui a été publiée là?
Alors au niveau des os crâniens, c'est assez partiel, donc généralement on va se baser aussi sur les dicynodontes qu'on connaît.
Ouais.
Donc c'était plutôt des organismes un peu particuliers, on n'en retrouve plus du tout à l'heure actuelle. Ils étaient particuliers parce qu'ils possédaient un bec de tortue et de défense de chaque côté, donc c'est pour ça qu'on les appelle les dicynodontes. C'était des organismes qui avaient une variation de taille assez importante, d'un crâne de quelques centimètres jusqu'à des crânes assez importants de 60 centimètres.
On a parlé d'un mélange de rhinocéros avec une tête de tortue. L'image est bonne ou pas alors pour l'imaginer, ce drôle d'animal?
Alors, justement, donc c'était des animaux assez trapus, donc un peu comme les hippopotames ou les rhinocéros. Hein, ils étaient assez bas au niveau de la taille. Mais très très robuste. Et pourquoi l'hippopotame? Notamment parce que il semblerait qu'en plus d'avoir une vie essentiellement terrestre, ils aient pu avoir un mode de vie un peu semi-aquatique, donc aller un peu dans l'eau.
Donc plus hippopotame que rhinocéros.
Voilà,
hein, par rapport à ce que je disais.
Plus hippopotame que rhinocéros, effectivement.
Quelle taille faisaient les gros dinos qu'ils côtoyaient à l'époque?
Oh, on était sur plusieurs dizaines de mètres.
Donc on est quand même en dessous.
Ah, on est bien en dessous. Mais ce qui est exceptionnel chez lui, c'est que chez la lignée des synapsides, donc qui regroupe notamment celle des mammifères, eh bien c'est le plus gros en fait tétrapode terrestre qu'on ait trouvé jusqu'alors au Trias.
Mais oui, justement, quand on dit que ces dicynodontes forment un groupe cousin de celui des mammifères, qu'est-ce que ça veut dire vraiment?
C'est-à-dire qu'en fait, on les regroupe au sein du même ensemble où il y a les mammifères, puisque ce sont des synapsides, donc ils ne possèdent qu'une seule fosse temporale. Par contre, ils sont très différents des mammifères actuels, puisque les mammifères sont caractérisés par des glandes mammaires, des poils, tout ça, on n'en avait aucune idée pour les dicynodontes, ouais. Et ils sont relativement éloignés d'un point de vue morphologique.
Puis à cette époque-là, les mammifères étaient petits,
Il
n'y avait pas de grosses bestioles
Ça. C'était vraiment tout petit, des crânes de quelques centimètres, ou une dizaine de centimètres, mais pas plus.
Alors, ces dicynodontes, on les décrivait comme pas très gros, on en trouve un très gros, un énorme. On ne les découvrait pas en Europe, on en trouve un en Pologne. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme nouvelle histoire de ce groupe à travers cette découverte en particulier?
Déjà, ce qu'il apporte, c'est que il semblerait que justement l'extinction des dicynodontes, elle a été beaucoup plus graduelle et non pas brutale, puisque c'est le plus jeune qu'on ait trouvé. Donc ça, c'est assez intéressant. D'un point de vue écologique, on peut supposer que, en fait, il y a deux hypothèses qui parlent, puisqu'après, au Jurassique et l'ère qui succède, on va avoir une dominance des dinosaures.
Oui.
Donc on se demande, est-ce que les dinosaures sont rentrés en compétition avec les synapsides et les ont, en tout cas les plus gros, et les ont, enfin ils se sont éteints.
Éliminés.
Ou est-ce que il y a eu une disparition des dicynodontes, puis reconquête des dinosaures, des niches écologiques, des environnements qu'ils avaient. Donc là, ça pose cette question. Il semblerait que lui soit capable de rentrer en compétition avec les dinosaures actuels.
En particulier, qu'est-ce qui pourrait expliquer sa grande taille à lui?
Alors sa grande taille, elle aurait pu être sélectionnée par rapport aux relations proie-prédateurs. Il est possible qu'ils aient été sélectionnés puisque plus gros, donc moins prédatés, même s'il y avait quand même une prédation, moins prédatés qu'un grand nombre de synapsides. Et évidemment, les dinosaures, eux, ne l'étaient pratiquement pas du fait de leur taille.
Là, on le sait qu'il était prédaté parce que les chercheurs ont découvert aussi des os de prédateurs très gros, 5 mètres, et qu'ils ont découvert aussi des fesses, dans les fesses fossilisées, des os de dicynodontes. Donc, il était mangé, on le sait.
Ah oui, ça, c'est sûr, il était mangé. Ouais.
Est-ce que la découverte de ce fossile supplémentaire, pour vous, dans vos travaux de thèse, ça va vous aider ou ça vous fait un peu tout remettre sur la table?
C'est intéressant parce que j'avais commencé ma thèse en voyant que l'extinction fin triasique n'était pas aussi brutale, donc là ça apporte. Et puis il y a un truc très intéressant, c'est que on en trouve généralement jamais en Europe, quelques fragments en Allemagne, un fragment en France, mais il a été perdu lors de la Seconde Guerre mondiale. L'apparition de ce dicynodonte polonais promet sur les ressources qu'a l'Europe, excepté la Russie, sur le potentiel fossilifère qu'il pourrait y avoir.
Raymond Bonnefille, on pourrait retrouver des pollens de cette époque, il y a 230 millions d'années ou pas?
Ah, 230...
Qui pourrait nous parler de l'environnement, du dicynodonte?
Des spores, mais pas les pollens des plantes à fleurs. Les pollens des plantes à fleurs apparaissent autour de 80 millions d'années.
Oui, donc c'est carrément pas possible du tout. Merci beaucoup en tout cas, Chloé, Olivier, pour toutes ces explications à la Une de la Science. Aujourd'hui, Axel, à demain.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, de nouvelles momies hautes en couleur découvertes à Dachour. 8 sarcophages viennent d'être excavés d'une même pyramide au sud du Caire. La tombe du roi Amenemhat II, qui date de la basse époque, entre moins 300 et 700 avant Jésus-Christ. Selon le ministère égyptien des Antiquités, elles sont recouvertes d'une couche de cartonnage peint en forme humaine et 3 sont en très bon état. Aucune indication ne permet de les identifier, mais leurs belles couleurs seront tout de même visibles dans les futurs musées de Ouargada et Sharm el-Sheikh au bord de la mer Rouge. Des bactéries résistantes jusque dans l'ISS, une étude suggère que des échantillons prélevés en 2015 dans la Station Spatiale Internationale contiendraient des bactéries résistantes aux antibiotiques et potentiellement pathogènes. En testant l'ADN de ces entérobactères, des bactéries qui vivent naturellement dans nos intestins, les chercheurs ont découvert de nombreux gènes connus sur Terre pour être impliqués dans le mécanisme de résistance. Il conclut que des études supplémentaires doivent être menées pour déterminer si la microgravité a un impact sur ces organismes. Et puis pour terminer, une étude originale et étrange sur le devenir des morceaux de Lego à travers le corps des enfants. Des pédiatres anglais ont calculé le temps moyen qu'il faut une pièce de Lego pour ressortir naturellement lorsqu'elle a été ingérée par inadvertance. Eh bien, le résultat est de 1 jour et presque 17 heures. À vos calculettes, donc pour lancer les recherches la prochaine fois que le problème arrivera à la maison avec vos enfants. Les auteurs précisent également qu'aucun objet de petite taille ne peut rester coincé à l'intérieur du corps. Le Lego finira donc forcément par ressortir. Allez, nous partons sur les pas de Lucie dans un instant.
De toi j'ai toujours envie.
De toi j'ai toujours envie.
De toi j'ai...
Voilà, c'est son retour avec un nouveau titre, prélude d'un album qui sortira en janvier prochain. C'était Super Chérie, la voix de M.
Cette région, pour nous, est très importante, l'Afar éthiopien. Une région extrêmement aride, extrêmement désertique, extrêmement chaude aussi, et assez incertaine, puisque un proverbe afar dit « Même le chacal fait son testament avant d'entrer dans l'Afar ».
La tête au carré.
C'est tout dit, Raymonde Bonnefille. Vous êtes avec nous, biologiste, géologue de formation et donc palynologue, une discipline qu'on va découvrir avec vous. Vous êtes l'invité de La tête au carré pour la sortie de ce livre sur les pas de Lucie, expédition en Éthiopie, qui sort chez Odile Jacob avec la préface d'Yves Coppens, dont on entendait la voix il y a un instant, et dans lequel ce livre vous racontez les grandes expéditions auxquelles vous avez participé donc en Afrique du Sud. Et les auditeurs nous rejoignent pour vous poser toutes les questions sur Lucie, entre autres, que vous connaissez bien, et puis aussi votre discipline, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Les expéditions en Afrique de l'Est.
De l'Est, j'ai dit quoi, l'Afrique du Sud? Ah oui, non, Afrique de l'Est, absolument. C'est parce qu'on parlait hors antenne tout à l'heure de l'Afrique du Sud. Les femmes étaient rares lorsque vous avez commencé justement ce métier? Les femmes dans votre discipline étaient très peu nombreuses ou pas?
Non, en palynologie, les femmes n'étaient pas rares parce que c'était une discipline qui dépendait aussi de la botanique.
Oui.
Il y a deux origines, une origine de géologie et une origine de botanique. Alors si j'explique un petit peu ce que c'est que la palynologie,
ah ben on y va tout de suite, oui, bien sûr.
C'est l'étude des pollens et donc la poussière de pollen des fleurs est constituée par des millions de grains microscopiques qui transportent le gamète mâle des fleurs. Et il est protégé par une enveloppe très résistante qui se conserve dans les sédiments où ils sont enfouis.
Donc ça, c'est une espèce de protection pour traverser les temps.
Pour la cellule reproductrice mâle des fleurs, oui. Et donc, quand on étudie les pollens, on étudie seulement l'enveloppe, qui est genre d'une enveloppe comme un petit ballon de rugby de 20 ou 30 microns et qui porte sur la surface et sur les parois une quantité d'ornementation très variée, des ouvertures, des détails, toute une combinaison de caractères qui permettent d'attribuer chaque pollen à la plante qui l'a produit ou à la famille de plantes qui l'a produit. C'est comme ça qu'on peut reconstituer la végétation ancienne. Si on a un assemblage de pollens différents, eh bien on pourra avoir la représentation d'un écosystème, par exemple une forêt ou une savane.
Ouais. Et alors, ils arrivent justement, ces pollens, à traverser les siècles et les millénaires sans aucun problème.
Millions d'années, bien
incroyable.
Sûr. Oui, oui, la membrane, cette enveloppe est d'une matière organique complexe, extrêmement résistante.
Ouais. Mais c'est quasiment unique dans le vivant. C'est quelque chose de très
dans le monde
ou
végétal,
pas
oui, c'est assez unique. C'est très, 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 très compliqué et très résistant, à condition de ne pas être soumis à l'oxydation de l'air libre.
Ouais,
il faut
c'est
que ça soit enfoui.
Ouais. Donc, ce sont des mémoires extraordinaires, finalement, des environnements passés.
Oui, absolument. Du contexte végétal, des paysages,
Qu'est-ce qu'on arrive à savoir, alors, finalement, avec un grain de pollen? Qu'est-ce qui nous apprend?
Alors,
on peut
le
aller jusqu'à
lui-même...
nous dire quel climat il faisait, quel environnement
Pas le grain lui-même, mais l'ensemble des grains que l'on va identifier. Parce que comme ce sont des objets microscopiques, et bien sous sa lame de microscope, quand on a traité un sédiment, on peut avoir une soixantaine de types. Et alors, à ce moment-là, on fait des comptages aussi. Mmh. C'est-à-dire que la représentation est statistique, de la même façon que pour une végétation, vous avez 30% de bouleaux, 2% de chênes, etc. Donc vous retrouvez ces proportions et vous pouvez ensuite les comparer avec ce que l'on connaît dans le monde moderne.
Ouais. Alors justement, c'est une façon de connaître la végétation du passé.
Absolument, hein,
c'est ça.
Absolument, tout à fait.
Alors, ça fait combien de temps qu'existe cette discipline?
Alors, elle a été initiée dans les années 1930 et puis elle a connu un plus grand développement dans les années 50 à la suite des développements de l'observation microscope, plusieurs types de microscopes, le microscope optique et ensuite le microscope électronique à balayage. Elle a été développée de façon différente dans deux communautés. D'une part, la communauté des géologues pétroliers, avant qu'il y ait les méthodes physiques pour repérer les dépôts de millions d'années, parce qu'ils repéraient avec des plantes qui ont disparu. les pollens des plantes qui ont disparu, et aussi dans les pays nordiques, parce que à ce moment-là, en regardant les pollens dans les sondages des tourbières, on pouvait voir le développement et l'avancée des végétations qui s'installaient à la suite du retrait des calottes glaciaires, de la calotte arctique. Donc il y a ces deux développements.
Alors, pourquoi vous avez eu envie de vous spécialiser dans ces pollens, Raymond de Bonnefille ?
Alors, c'est tout à fait un hasard, parce que, disons que ma formation, c'est tout à fait typique des élèves de l'école de la République. Je viens d'une petite ville du Massif central, ensuite l'école normale primaire, l'école normale supérieure, bon, et le CNRS. Et j'avais fait un diplôme, et sous la direction d'une dame qui s'appelait Mademoiselle Alimène, qui avait travaillé au Sahara et qui voulait savoir la végétation du Sahara à l'époque où il y avait les gravures rupestres.
Ouais.
Donc elle m'avait donné, mais c'était assez fastidieux, et c'est par un suite de hasard ensuite qu'elle m'avait redemandé si je voulais pas candidater au CNRS.
Ouais. Est-ce que c'est elle qui vous fait rencontrer Yves Coppin, justement, ou pas ?
Oui, indirectement, c'est elle, mais surtout le préhistorien Jean Chavaillon, avec qui je ferai la première expédition en Éthiopie, sur le haut plateau de l'Éthiopie, à Melka Contouré, un site archéologique où il y a de l'industrie assez remarquable. C'était la première fois qu'on trouvait des bifaces dans cette région, et où il y a une succession de ces industries dans un site au bord d'une rivière qui s'appelle la rivière Awash.
Ouais. Yves Coppin se dit justement dans la préface qu'il signe de votre ouvrage que ça faisait un peu ricaner finalement quand on invitait une palynologue, donc spécialiste du pollen, à venir participer aux expéditions.
Oui, le terme est un petit peu rébarbatif, et puis pour les collègues géologues, disons qu'ils s'occupent de grands développements de terrain sur des espaces géographiques, des petits objets microscopiques qui sont attribués à des plantes.
Oui.
Voilà, la botanique, c'était pas trop leur tasse de thé.
Ouais. Et pourtant, alors là, c'est ce qu'on découvre justement avec vous, c'est que la raison pour laquelle vous avez été engagé, c'était pour essayer de découvrir quel était le paysage et l'environnement des hommes préhistoriques quand même. C'était
exactement,
ça qui intéressait tout
exactement.
Le monde.
Exactement. Et oui, c'était important parce que à l'époque, la caractéristique de l'homme, c'est d'être debout. Donc nous appartenons au même groupe que nos cousins, ce ne sont pas des cousins, mais que les singes actuels. Et donc l'hypothèse, disons, de l'hominisation, c'est-à-dire de l'acquisition de cette station droite, impliquait peut-être une mutation ou un changement d'habitat entre un habitat arboricole et plutôt un habitat de type savane, debout. Et j'avais dit, écoutez, moi, si je trouve des pollens dans les sédiments, je vais pouvoir vous dire si c'était une savane ou si c'est une forêt. Je peux vous dire tout de suite qu'aucun des hominidés australopithèques existants actuellement n'a été véritablement trouvé à l'intérieur des forêts.
Ouais. Et ça, c'est absolument essentiel dans la connaissance, justement, de ces êtres.
Hein. Voilà. Dans les savanes, il y a aussi quand même des zones arborées, en particulier en bordure des rivières ou en bordure des lacs. Donc ils peuvent aussi, en particulier l'ardipithèque.
Lucie, on sait qu'elle a quand même un petit peu grimpé aux arbres, non ?
Un petit peu aussi, oui. Ouais. Mais c'est surtout ardipithèque qui est très adapté à la vie arboricole.
Ouais. Il y a même eu une idée selon laquelle elle serait morte tombant d'un arbre. Enfin, ça, c'est une histoire qui a été remise en cause, hein, beaucoup.
Oui, c'est difficile. Hein, c'est difficile de savoir les conditions dans lesquelles
il y avait une publication qui était sortie là-dessus, qui était très contredite.
Hein. Oui, c'est un petit peu, oui.
Absolument. Est-ce que vous avez une mémoire aussi bonne qu'un grain de pollen, Raymond de Bonnefille, ou est-ce que vous aviez plein de notes pour écrire cet ouvrage lié à vos expéditions, justement ?
Ah non, je n'avais aucune note.
Donc vous avez une très bonne mémoire.
Alors j'ai une très bonne mémoire, et puis le travail de mémoire, alors là, c'est assez étonnant de découvrir dans sa propre mémoire qu'on garde comme ça des souvenirs aussi vivaces.
Eh bien vous voyez, oui, exactement.
Une période, je pense, qui était... qui était vécu avec intensité. Vous la situez, cette période aussi. Les grandes expéditions dont je parle sont celles dans la vallée de l'Omo. Et elle se situe en directe ligne de l'époque 68. Donc c'est quand même une époque assez particulière. Pour moi, cette découverte de l'Afrique a été une grande ouverture, parce que, comme je vous disais, je crois que dans ma scolarité, j'ai suivi une trajectoire un peu programmée à l'avance. et découvrir le continent, ses coutumes, cette expérience avec des scientifiques, c'était quelque chose d'assez extraordinaire.
Ça, c'est vraiment l'aventure, effectivement. On va vous écouter parce qu'on a un document très beau qu'a retrouvé justement Fanny Boyon pour cette émission. C'est votre voix en 1970, justement, dans la vallée de l'Omo. On va écouter cette archive sonore avec votre voix de jeune fille. Et puis, on va commenter ça juste après.
Voici en Éthiopie, l'ancien delta du fleuve Omo. C'est ici qu'Yves Coppens et son équipe fouillent depuis 7 ans. Le site a une géologie très intéressante, car les différentes couches qui correspondent à des tranches de temps ont en quelque sorte basculé et au lieu d'être verticales, se présentent presque horizontales.
Comment est-ce que vous espérez attraper ?
Cette scoop est destinée à prendre les pollens de l'atmosphère.
Mon bonne fille est d'abord venue pour faire des prélèvements de sédiments, pour essayer de trouver dans ces sédiments les pollens qu'ils contiennent éventuellement, pour essayer de reconstituer la flore, le paysage de différentes époques. Mais c'est intéressant quand même de faire des comparaisons avec les séries actuelles.
Il y a des pièges naturels pour les pollens fossiles. Lorsque les sédiments se déposent dans le fond d'un lac, la vase contient les pollens de la végétation qui était à cette époque. On prélève un échantillon de sol. Ensuite, on le traite chimiquement de manière à éliminer toute la matière minérale et on peut ainsi, au microscope, voir l'enveloppe des grains de pollen et reconnaître l'espèce. Ce paysage, c'est celui d'une savane à acacia, qui sont ces arbres dont le sommet est assez plat. Il est vraisemblable qu'à l'époque, il y avait peut-être davantage d'arbres qu'actuellement.
C'était vous, Raymond de Bonnefille, il y a presque 50 ans, hein?
Ah là là.
Qu'est-ce que ça vous fait de vous réentendre? Est-ce que vous voyez exactement le paysage, l'environnement dans lequel vous étiez au moment de cette interview là?
Oui, je le vois très bien. J'étais sur le sommet d'une colline qui était pas très loin de la grande rivière Omo où il y a une grande forêt riveraine. C'était pas très loin du point d'eau où on allait chercher l'eau à la rivière. Je revois très bien. Je revois même la petite robe en coton que j'avais à l'époque.
Ouais. Qui vous entourait justement? Qui constituait cette expédition là à l'époque pour qu'on imagine ceux qui étaient avec vous?
C'était l'expédition française qui était dirigée par Yves Coppens à l'époque. Oui. Oui, il a dirigé l'expédition de 1966 à 1973 et 13 parce que après en 14 c'est...
On va y revenir avec vous dans un instant. On repart en voyage justement, on fait ce retour en arrière au cœur de ces expéditions scientifiques et sur les pas de Lucie, ça sort chez Odile Jacob.
Under the bad, bad moon tonight. Oh baby, is it just me? Or is there something in the air we breathe? Cause I'm feeling dizzy, dizzy, yeah. How was the party? Was it treating you right? Wish that I could be there, but I'm under the bad, bad moon tonight. Baby, can you help me? Let me out, I'm trapped in a blur. Stop. But I swear now, let me out, I'm lost in words. Too much in my head, I should have seen the bad side.
I wanna tell you everything will be fine, but
Mot, et c'était Blur.
La tête au carré sur France Inter.
Raymonde Bonnefille avec nous pour nous emmener sur les pas de Lucie, expédition au pluriel en Éthiopie, préface d'Yves Coppens avec un ouvrage qui paraît chez Odile Jacob et puis les messages des auditeurs, on le disait tout à l'heure, donc vous êtes spécialiste de palynologie, l'étude des pollens et justement Patrice demande si les spores des fougères ont les mêmes capacités d'adaptation que les pollens quant à la faculté justement de traverser les siècles, voire les millions d'années comme on le disait tout à l'heure.
Oui, elles ont la possibilité d'être largement conservées, mais elles comportent beaucoup moins de détails qui permettent de les identifier aux plantes très précises.
Ouais. Quelles sont les limites justement de la palynologie, alors dans ce qu'on peut décrire d'un environnement ou d'un climat finalement? Est-ce qu'on a vraiment des informations ultra précises ou...
Alors là, il faut faire appel
quand même à certaines limites.
C'est quelque chose effectivement que j'ai initié. Il faut avoir une banque de données importante sur la représentation pollinique, c'est-à-dire les assemblages de pollen qui sont issus des écosystèmes actuels. Alors avec mes élèves, nous avons développé ça dans toute l'Afrique tropicale. Nous avons développé pour au moins 500 points et plus tard, en association, nous avons mis ensemble toutes ces données qui forment maintenant une base de données d'ailleurs disponible sur Internet, à laquelle on peut se référer pour faire des comparaisons à la fois des paléovégétations et puis pour faire des études statistiques en mettant en comparaison ou en parallèle ou en faisant des statistiques un peu particulières qui permettent de lier les paramètres météorologiques et les assemblages de pollen. Mmh. Et je pense qu'avec le développement des big data, il y a là une grande ouverture qui permettrait de travailler davantage. Nous avions mis en évidence la reconstitution de la pluviosité, de la température, mais il reste des problèmes de la saisonnalité parce que ces régions tropicales dans lesquelles ont vécu les hominidés étaient des climats saisonniers. Est très important de savoir qu'il y avait une longue saison sèche. Cette saison sèche, les ressources sont beaucoup plus restreintes pendant cette période et que ces contraintes ont peut-être été déterminantes aussi dans l'évolution ou peut-être dans la migration des espèces anciennes.
Donc ça veut dire que vous avez cartographié l'Afrique, on pourrait presque l'imaginer comme ça, pour faire des points de comparaison ensuite
Oui, alors la cartographie n'est pas terminée, mais il y a une urgence à la terminer.
Pourquoi ?
Parce que les végétations, comme partout, vous savez très bien, les atteintes sur les forêts tropicales, la destruction, l'anthropisation qui permet, par exemple, la région de l'Omo que nous avons connue, qui était complètement vierge, avec plein d'animaux, avec une végétation qui était très particulière. Elle est aujourd'hui l'objet de réaménagement. Elle n'existe plus telle qu'elle était à cette époque.
Raymonde Bonnefille, l'une des vertus, moi je trouve aussi, de votre ouvrage, c'est de découvrir bien tous les acteurs d'une grande expédition scientifique, comme on les organisait d'ailleurs à cette époque-là, au début des années 70. C'est vrai que le nom d'Yves Coppens, ça a été associé à celui de Lucie, mais c'est aussi une façon de montrer que derrière sa figure très charismatique et très médiatisée, il y a toute une équipe de chercheurs de différentes nationalités qui ont permis aussi cette découverte.
Ah oui, tout à fait. C'est très important de retenir que la recherche est aujourd'hui collective, c'est un travail d'équipe, que c'est aussi un travail d'échange, un travail de partage. Alors, ce qui est extraordinaire sur le terrain, c'est de partager, pas seulement de façon livresque, mais de partager en agissant tous ensemble, en se questionnant en permanence.
En doutant, vous dites.
En doutant.
Tous ensemble.
En vivant aussi ensemble avec les personnalités particulières de chacun d'entre nous. Et j'ai voulu aussi faire revivre quelques personnages marquants qui aujourd'hui ont disparu et qui ont beaucoup compté pour moi, que je trouve qui était peut-être une rencontre. Il y avait surtout dans cette période des expéditions de l'Homo un groupe assez particulier de personnalités très fortes.
Ouais. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier alors ce groupe ?
Il a été très solidaire, il a été très joyeux. Je décris comment c'était. Bon, il y a les deux aspects, puisque j'ai quand même participé à la fois à l'expédition française et à l'expédition américaine. Ouais. Donc, il y a un contraste dans la façon de travailler, dans la façon de
comment
vivre.
Comment se fait-il que vous ayez pu, d'ailleurs, être sur les deux terrains à la fois ? Racontez-nous tout.
Ah, bah écoutez, oui, Yves Coppens dit dans sa préface que bon, le professeur Clark Howell, qui était quelqu'un de très ouvert, de très l'apport de la palynologie était une particularité de l'expédition française. Il n'y avait pas de palynologue dans l'expédition américaine. Donc, après les premiers résultats que j'avais obtenus, et puis dans l'expédition française, les moyens devenaient un petit peu plus limités. Et donc, c'est là que Clark Howell m'a proposé de participer à l'expédition américaine. Et je suis allée au cours de 3 années successives sur le terrain.
Ouais, mais est-ce qu'il y avait des rivalités culturelles ou pas du tout? Tout le monde se serrait les coudes et finalement, parce que vous êtes animé par la quête de l'origine de l'homme, c'est ça quand même qui est au cœur de toutes ces expéditions.
Oui, tout le monde était motivé, je crois.
Ça, c'est le dénominateur commun, quelle que soit justement la nationalité.
Absolument.
Donc, quand on fait une grande découverte, bah, évidemment, on a envie de se l'attribuer, c'est bien normal. Mais est-ce qu'il y avait aussi un partage, une collaboration vraiment qui allait jusque-là?
Oui, il y avait à la fois de la compétition, mais disons de la compétition qui n'était pas destructrice, qui était stimulante. Il y avait une compétition avec les moyens financiers qui était un petit peu différent aussi, mais il y a eu beaucoup de solidarité. J'en donne un exemple avec les petits accidents ou les incidents qui ont eu lieu, qui ont permis des échanges entre les deux expéditions, les directeurs, les chefs, on disait les chefs d'expédition, s'entendaient bien entre eux, les étudiants aussi, nous étions tous des thésards, donc il y avait à la fois ce désir commun. Et l'illustration de la compétition, c'est dans les datations, c'est le chapitre que j'ai appelé la querelle des anciens et des modernes, qui montre comment justement on veut avoir le plus ancien et puis finalement comment fait-on pour d'abord dater les fossiles. J'ai montré qu'on ne date pas un fossile. Souvent on nous dit dans le au quotidien bon, comment vous datez?
On date
les sédiments, les couches dans lesquelles sont trouvés les fossiles, et que ce travail-là, c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas une mesure qu'on sort
Mais ça veut dire qu'un fossile sorti de son environnement, il est indatable, hein?
Lui-même, il faut absolument savoir où on l'a trouvé. Ah oui, ça c'est indispensable. Si vous avez un Africain qui vous ramène le fossile et comme au 19e siècle et puis qu'il l'amène dans un laboratoire...
Possibilité de savoir exactement d'où il vient.
Les précisions, oui.
On va écouter justement une archive de 1976 autour de Lucie, hein, puisque sa découverte c'est 1974, mais sa description pour la première fois en tout cas au grand public c'est en 1976, et on écoute tout de suite ce document.
La plus grande découverte de la préhistoire, c'est Lucie. Lucie, c'est une hominienne qui vivait il y a 3 millions d'années en Éthiopie. Son squelette, presque complet, a été présenté aux chercheurs, un reportage de Michel Chevalet.
Là, on a un squelette le plus complet, de 3 millions d'années.
Comment était notre ancêtre il y a 3 millions d'années?
Lucie nous a appris que c'était d'abord pas un homme fossile, c'était une femme fossile, c'est un australopithèque. Elle nous a appris la taille, et en particulier, quelque chose de très important, c'est la proportion du bras et de la jambe. Et cela, c'est beaucoup plus proche de l'homme que du singe. Ce que Lucie nous a appris également, c'est surtout l'apparition de l'astration droite. Et on a la preuve ici concrète que la bipédie existait il y a 3 millions d'années.
On marchait debout.
Maintenant, Lucie représente un symbole parce que c'est le résultat d'une recherche en équipe avec des Américains, des Éthiopiens, et représente finalement le résultat de quantités de spécialistes, de travail sur le terrain et en laboratoire. Et c'est à eux qu'appartient la découverte.
Voilà, Raymond de Bonnefille, avec avant la découverte, tout ce travail, hein, justement. Parce que finalement, la découverte de Lucie, elle arrive à la fin de votre ouvrage. Hein. C'est tout le processus qui mène jusqu'à Lucie, précisément, qui vous a intéressé. Hein.
Exactement. J'ai voulu montrer qu'il y avait un long chemin. C'est pour ça que je l'ai appelé sur les pas de Lucie.
Ouais. Donc, c'est 1974. Sa découverte, effectivement. Quel était le but de l'expédition au départ? Ça, j'aimerais bien que vous nous le racontiez. Et pourquoi d'abord avoir choisi cet endroit? Comment est-ce qu'on sait que finalement... que c'est là qu'on peut potentiellement trouver un fossile très intéressant d'Australopithèque, là en l'occurrence?
Alors la mise en place de l'expédition qui a lieu dans la phare est tout à fait différente des expéditions précédentes. C'est pour ça qu'il était important de décrire les expositions des 6 années précédentes, qui avaient été programmées longtemps à l'avance par des chercheurs chevronnés, par ceux qui déjà précédemment avaient eu une expérience de terrain. Et l'expédition de la Lafare, c'est une rencontre de personnages. Je dis donc Maurice Taïeb, qui a été à l'initiative de la mise en place de cette expédition.
C'est lui qu'on entendait là dans l'archive.
Celui qu'on entend tout à l'heure.
Donc il met en place cette expédition pour partir, mais précédé d'autres travaux. Hein.
Voilà. Il avait travaillé précédemment en tant qu'explorateur et géologue et découvert des gisements dans la Lafare tout seul. Et il était au courant, comme tous les scientifiques, des expéditions précédentes. On avait des rencontres autour de colloques. Et donc, j'explique dans le livre cette succession de rencontres qui font que un petit groupe qui essaime depuis l'expédition de la vallée de l'Omo avec Maurice Taïeb entreprendre l'exploration du territoire des Lafare.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces gisements, alors justement, qui puissent mettre sur la voie d'un terrain très intéressant ?
Ah, il y a des fossiles d'animaux, évidemment. Mmh. Il y a d'abord les dépôts géologiques. Les dépôts géologiques de la série de l'Omo sont extraordinaires. Il y a presque 800 mètres de dépôts, comme on expliquait dans votre premier reportage, où les couches se sont déposées successivement. Elles sont coiffées par des couches de cendres volcaniques que l'on peut dater. Depuis, on en a une centaine avec des datations très précises. Et entre ces couches, il y a des animaux fossiles, des mammifères, des quantités de squelettes.
Que des animaux ?
Oui, c'est déjà beaucoup.
Oui. Mais évidemment, là, on parle de Lucie. On n'est plus dans le monde animal.
On n'est plus dans le monde animal. Oui. Ouais. Mais vous savez, dans la pyramide du monde animal, quand on trouve d'abord beaucoup d'herbivores, ensuite on trouve des carnivores, ensuite quelques singes, et ensuite
on arrive aux hominidés.
Ouais. Alors il y a quelquefois, il faut une vingtaine d'années avant d'arriver aux hominidés, et quelquefois, comme avec Lucie, eh bien au bout de la première année, on trouve les. Ça, c'est la chance, c'est la bonne étoile.
Et on y revient avec vous dans un instant. Vous êtes notre invité, Raymonde Bonnefille.
T'es comme un rossignol à la voix de Goéland qui chante au musical. Qui fait danser les gens. T'es comme un baratin qui cause en mi bémol. T'es comme une vieille putain qui monte à l'autre sol. Beau saxo, beau saxo. T'es comme sur l'harmonie du soir, t'es comme un maître d'hôtel qui joue en blanc et noir. T'es comme un soprano qu'aurait vendu Calas et chanterait comme un pot le prologue de Payas. Beau saxo, beau saxo. T'es qu'une chanson de la nuit qui s'étire et qui rampe quand l'amour s'est blotti au fond d'un verre de champ. T'es qu'un hautbois de la grippe qu'à sa flûte en vitrine et quand tu fais la lippe t'es le violon de Chaliapine. Un beau saxo. T'es comme une maladie qu'on piquerait au boxon et qu'on garde toute la vie comme une décoration. Vous êtes comme les gitans, vous les saxos, mes frères, vous cavalez tout le temps sur l'octave des misères. Beau saxo.
Ça vous fait plaisir, Raymond de Bonnefille, d'entendre la voix de Léo Ferré? Beau saxo, c'est en 1966.
Ah hein oui.
Vous me disiez que
oui.
C'était exactement l'époque où vous l'écoutiez également.
Oui,
c'était...
Oh, j'aime beaucoup, oui.
La tête au carré.
Ces ossements à l'apparence anodine datent d'il y a 3 millions d'années. Ils proviennent de l'un de nos ancêtres. Ce n'était pas un singe, mais ce n'était pas encore tout à fait un homme, comme on le connaît aujourd'hui, un homo sapiens. Les chercheurs de l'équipe franco-américaine ont donc découvert ces ossements dans une vallée quasi désertique de l'Éthiopie, un genou et deux morceaux de fémur se trouvant près de la hanche. Avec ces ossements, ils ont pu prouver que déjà à cette époque, l'homme marchait sur deux jambes et non pas à quatre pattes. Il mesurait probablement entre 90 et 105 cm, donc il était très petit. Les chercheurs qui fouillent notre passé et qui reconstituent nos ancêtres grâce à des minuscules fragments d'os ont donc fait une découverte très importante.
Il en représente, si vous voulez, la carte du monde comme si on faisait un film. Cette carte du monde à 5 millions d'années donne un point en Afrique. À 4 millions d'années, elle donne quelques points en Afrique. À 3 millions d'années, elle donne un petit peu plus de points en Afrique. Et à 2 millions d'années, elle donne tout d'un coup des points en Europe et en Asie. Tout se passe comme si l'homme, à partir d'un foyer africain, s'était étendu à l'ensemble de l'ancien monde.
Voilà, le berceau de l'humanité, hein, c'est toujours ce qu'on dit, Raymond de Bonnefille.
Oui, on dit qu'il est en Afrique de l'Est et principalement en Éthiopie, parce que c'est là qu'on trouve les fossiles les plus anciens.
Oui, mais pourtant on a aussi d'autres fossiles d'Australopithèque encore plus anciens, je pense évidemment aux découvertes au Tchad.
Oui, les recherches ont continué bien après Lucie.
Là on est à 7 millions d'années.
Au Kenya, il y a quelques indices à 7 millions d'années, au Sahara.
Oui. Donc ça veut dire qu'il y a différents points aussi et que cette histoire reste à retracer de toute façon. Hein.
Ah oui, on dit toujours qu'il faut toujours plus de fossiles pour pouvoir retracer une histoire un peu plus complète, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il a de si particulier d'ailleurs, ce fossile de Lucie, pour qu'on en parle autant? Alors qu'est-ce qui finalement
Deux choses, c'est la datation.
Oui, donc 3 millions 2.
3 millions 2, oui, et maintenant, bon. Parce que dans les années précédentes, il y avait eu des fossiles trouvés autour de 2 millions, de 2 millions 5, qui déjà avaient été plus âgés que ceux qui avaient été trouvés au Kenya, en Tanzanie, en 1959, et qui dataient de 1,8 million d'années. Donc, vous voyez,
le saut qui a été fait, hein, ouais.
Exactement, en un peu plus d'une dizaine d'années. Et l'autre chose, c'était qu'il y avait un assemblage d'ossements, plus de 50 pièces, qui étaient trouvées au même endroit. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce que dans les fossiles anciens, on trouve des pièces séparées, mais rarement un squelette presque aussi complet.
40%. Du squelette. Et c'est vraiment cette image qu'on a en tête de Lucie,
oui,
hein. C'est son squelette, quoi, finalement.
Et plus tard, on trouvera des crânes. Et plus tard, encore, il y aura beaucoup d'autres pièces qui sont attribuées à la même espèce sont trouvées. Et ça fait
à la même espèce, mais pas au même individu. Hein.
Mais pas au même individu. Il y a plusieurs individus, bien sûr.
Parce qu'on n'a pas le crâne de Lucie. On a un bout de mâchoire.
Oui.
Mais on n'a pas son crâne. C'est probablement la pièce, la plus belle pièce manquante, au fond. Hein.
Il n'a pas été fossilisé à cet endroit-là.
Ouais. Qu'est-ce qui a pu se passer d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé finalement son crâne au même endroit alors que ce squelette, il était là bien présent alors?
Écoutez, les fossiles sont trouvés dans des dépôts qui proviennent de rivières, donc se transportent forcément un petit peu. Est-ce que c'est la fossilisation est aléatoire?
Bien sûr, oui.
Donc on trouve ce qui est conservé.
Ouais. Donc on a trouvé d'autres crânes qui datent à peu près de la même période d'ailleurs.
Oui, qui datent dans l'intervalle entre 3,6 et 3 millions d'années. Ouais. La durée de l'espèce Australopithèque afarensis, c'est un demi-million d'années quand même.
Oui, donc ça c'est l'espèce de Lucie. Hein,
c'est l'espèce de
précisément,
Lucie.
Précisément. Voilà. Pourtant des pièces majeures mais qui sont moins médiatisées. Hein.
Oui, qui sont un petit peu médiatisés quand même. L'enfant qui a été trouvé par un chercheur éthiopien de l'autre côté, les crânes qui ont été trouvés par les chercheurs américains, toute une famille aussi, ils ont appelé ça la famille de Lucie.
C'est vrai, absolument. Il fallait du courage aussi quand même pour faire ces expéditions, parce que tout ça est dans un contexte environnemental difficile.
Et il faut vous rappeler que la découverte de Lucie, ça correspond à la chute de l'Empire d'Éthiopie. Donc, au moment où on était sur le terrain, il y avait des grands bouleversements à Addis Abeba et il y avait aussi une épidémie de choléra. Ouais. Et puis les difficultés auxquelles ont dû faire face les organisateurs de cette expédition, parce qu'à Addis Abeba, il y avait des difficultés pour trouver l'essence, pour trouver de la farine, pour trouver le sucre, pour avoir les permis. Il fallait être vraiment motivé. On était un peu fous, je crois.
Et des nuits au milieu des hyènes, par exemple.
Ça, c'est un beau. Ça vous racontez, c'est la première fois. Oui. Ouais. La première fois que je suis allée en Éthiopie, que j'ai dû camper, nous étions là sur le plateau pas très loin d'Addis Abeba, mais il y avait beaucoup d'hyènes, effectivement, c'est assez impressionnant.
C'était votre première nuit blanche sous le soleil sous le ciel étoilé de l'Éthiopie?
Oui, il y a celle-là, et dans la vallée de l'Omo, aussi sous la tente, alors là, avec beaucoup de bruit d'animaux, d'animaux nocturnes, l'idée des scorpions, de se prémunir des scorpions, des grosses araignées, des serpents.
Les cobras. Il y a un passage sur le cobra qui a envahi la tente de la femme d'Yves Coppens, hein, précisément, et qui a craché son venin dans les yeux, d'ailleurs, de vos confrères. Hein.
Oui, et surtout du photographe.
Oui, ce qui est quand même embêtant. Bon, mais tout s'est bien terminé, quand même.
Tout s'était bien terminé.
Heureusement, malgré le danger. Est-ce qu'on a encore de grandes expéditions comme ça aujourd'hui, Raymond de Bonnefille, dans cet esprit-là de l'époque, ou est-ce que ça a beaucoup changé?
Aussi importante, je ne crois pas. Pas aussi importante, je crois pas. Il y a quelques expéditions qui avec plusieurs chercheurs. Elles sont plus courtes, je pense, dans le temps. Et elles sont sur des régions qui sont connues, puisque maintenant, puis elles ont la technologie moderne.
C'est ça.
Le GPS, les téléphones, les voitures à air conditionné qu'il n'y avait pas à cette époque.
Donc c'est cette mémoire, finalement, que vous retracez
Oui, c'est cette mémoire, en essayant de la faire revivre, de faire revivre les paysages, les couleurs, les odeurs, une région qui était assez fascinante.
Et ça s'appelle « Sur les pas de Lucie », expédition donc en Éthiopie, préfacée par Yves Coppens, ça paraît chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Raymond Bonnefille, d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous, Mathieu.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
David Amiel, bonjour.
Bonjour.
Ce soir, 20h50 sur France 5, l'apocalypse de Néandertal. Et on revient justement sur le mystère de la subite disparition de Néandertal qui continue justement d'animer la sphère scientifique.
En effet, oui, c'est un polar qui est digne d'un Agatha Christie et qui continue d'agiter le monde scientifique. Alors on sait depuis son séquençage ADN qui a eu lieu en 2010 qu'on a de nombreux points communs avec Néandertal et même qu'on partage à peu près 2% de l'ADN néandertalien. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi a-t-il brutalement disparu, à part avoir régné en maître sur la Terre pendant à peu près 350 000 ans.
Alors, il y a beaucoup d'hypothèses, justement, sur son extinction. Alors, qu'est-ce que ce film va nous apprendre de plus ce soir?
Alors, il n'y a aucune hypothèse unique qui est vraiment parvenue à faire consensus, mais au fur et à mesure des découvertes, en fait, on affine, on fait le tri, et certaines idées, telles que l'éradication pure et simple de Néandertal par Homo sapiens, sont éliminées.
Oui.
Et c'est ça que va raconter le film.
On va écouter un extrait justement, ça s'appelle l'apocalypse de Néandertal.
Des reconstitutions de Néandertaliens montrent qu'ils étaient plutôt petits et trapus, avec des membres courts et un thorax volumineux et évasé.
Selon des études récentes, l'homme de Néandertal était sans doute un redoutable adversaire.
Les attaches des muscles sur les os témoignent d'une force extraordinaire.
Cette impressionnante musculature lui permettait de faire face à toute menace, surtout au corps à corps. Une telle espèce était capable d'affronter un bison de 2 tonnes. En comparaison, l'homme moderne devait faire figure de poids-plume.
Alors justement, David, le film étaye et balaye bien d'autres hypothèses pour finalement dresser un portrait de Néandertal bien plus proche de nous que ce que l'on croit.
Oui, effectivement, Néandertal n'était pas simplement une brute épaisse, comme on a pu le dire par le passé, mais bien un être vraiment sociable, intelligent, bien plus fort et plus robuste qu'Homo sapiens en plus, et beaucoup mieux adapté à son environnement.
Alors ce serait donc plus probablement une conjonction d'événements qui aurait mené à sa disparition et non une cause unique, hein.
Oui, alors un croisement de facteurs à la fois technologiques, géographiques et également des profonds changements climatiques. Et finalement, les choses auraient très bien pu tourner autrement et aujourd'hui, nous serions peut-être des descendants de Néandertal en train de parler des raisons de la disparition d'Homo sapiens.
Qui sait, effectivement. En tout cas, on en saura plus ce soir avec l'apocalypse de Néandertal. C'est à voir sur France 5 et c'est à 20h50. Merci David,
merci.
À jeudi prochain. Ainsi s'achève cette tête au carré. Merci à Michel Bézikian qui était aujourd'hui à la technique. Et puis demain, vendredi, bien sûr, ce sera le club.